Il reste moins de 3 semaines avant l'élection américaine du 3 novembre et on vous présente notre guide des élections américaines de 2020. Vous écoutez le balado de la chaire. Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal et vous écoutez le balado de la chaire. C'est un balado qui vous permet d'entendre nos conférences si vous les avez ratées et des capsules d'analyse de l'actualité internationale, de l'actualité politique aux États-Unis et de la culture populaire américaine. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vous souhaite la bienvenue à cette 4e table ronde en ligne de notre série d'activités sur les élections américaines de 2020. C'est une table ronde qui s'intitule « Guide des élections américaines ». Pourquoi? Parce qu'on lance aujourd'hui justement notre guide des élections américaines 2020. C'est un guide qu'on publie chaque fois qu'il y a des élections aux États-Unis. On avait publié un guide semblable aussi durant les primaires du début de l'année 2020, primaire démocrate et républicaine. C'est un guide donc d'une 50aine de pages rédigé par 14 chercheurs de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. C'est un guide qui répond à de nombreuses questions essentielles pour comprendre cette élection qui ne laisse personne indifférent. Peut-on se fier au sondage? Est-ce que Trump peut causer la surprise encore une fois en 2020 après ce qu'il a fait en 2016? Quels sont les enjeux de cette élection? Quels sont les électorats à surveiller, les États qui pourraient faire la différence? Quels sont les programmes des candidats aussi? Comment fonctionne le collège électoral? Quel parti risque de remporter les autres élections du 3 novembre et en particulier les élections au Congrès? Et le but de la table ronde d'aujourd'hui est de vous proposer un aperçu de ce guide et j'ai la chance de recevoir 8 des 14 auteurs et autrices du guide. Ils et elles sont tous chercheurs en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Je vous les présente sans plus tarder. Andréanne Bissonnette, Julie-Pierre Nadeau, Alexis Rapin, Véronique Pronovo, Daphné Saint-Louis Ventura, Frédéric Verreau, David Dubé et Victor Bardoux-Bourgeois. Bonjour, chers amis. Merci d'être là. Donc, on va parler un petit peu de ce guide et voici ce qu'on va faire. On va y aller d'un tour de table. Je vais vous poser une question chacun, chacune, et vous aurez 4 ou 5 minutes pour répondre à la question. Mais bon, sans plus tarder, j'aimerais qu'on commence par ce premier tour de table. Je commencerai par Alexis Rapin. Alexis Rapin a écrit un texte sur le bilan du président Trump, les 4 premières années du président. 4 années qui ont été pour le moins mouvementées, mais c'est un texte intéressant parce qu'il met quand même l'accent sur certaines réalisations du président Trump. Il y en a eu des réalisations. Et j'ai envie de demander à Alexis. Quel est ce bilan? Quel examen fait-il de ce premier bilan? Et comment ce bilan de Trump peut-il affecter le vote le 3 novembre? Alexis?
Tout d'abord, bonjour tout le monde. Je dirais qu'il y a peut-être deux perspectives possibles vis-à-vis du premier mandat, du bilan du premier mandat de Donald Trump. Deux perspectives distinctes, mais pas nécessairement contradictoires. La première perspective, ce serait que Trump a, comme il le dit dans ses publicités de campagne, tenu beaucoup de ses promesses de 2016. Peut-être pas toutes, mais beaucoup quand même. Il a effectivement sorti les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien et de l'accord de Paris sur le climat. Il a à peu près sorti les États-Unis d'Irak, de Syrie et d'Afghanistan. Il est parvenu à renégocier l'ALENA. Il a éliminé des centaines de régulations économiques et environnementales de l'ère Obama, etc. Donc, c'est quand même une to-do list qui est pas mal accomplie à date, si on peut dire. Une promesse majeure qu'il n'a pas tenue, ça serait peut-être le fameux mur à la frontière américano-mexicaine, dont il a fait construire à date qu'une 30aine de kilomètres et dont le Mexique n'a au final pas payé la facture. Mais bon, en 2016, déjà, on pouvait un peu souhaiter que ça n'arriverait pas exactement comme Donald Trump l'a annoncé. Mais donc, dans l'ensemble, on peut quand même dire que Donald Trump a mené à bien pas mal des idées phares qu'il avait énoncées en 2016 et que son électorat attendait impatiemment. Donc ça, ce serait la première perspective possible. La deuxième perspective possible vis-à-vis du bilan de Trump, ce serait dire qu'il était très efficace pour défaire une partie de l'héritage de l'ère Obama, mais pas mal moins efficace pour ce qu'il s'agit de faire des choses de sa propre main. Au final, si on se concentre sur les politiques publiques, il y a assez peu de grands projets qui ont été menés à bien par son administration, en fait. Le American Healthcare Act, donc la réforme de l'assurance santé qui devait remplacer l'Obamacare, a été rejetée au Sénat en 2017. La grande réforme fiscale de 2017, elle a été adoptée, mais c'est surtout l'establishment républicain du Congrès qui l'a façonné. Trump ne s'est pas beaucoup, beaucoup impliqué dans le processus. Et un autre des grands projets que Trump avait annoncé en 2016, donc le vaste plan de restauration des infrastructures américaines, 4 ans plus tard, on n'en a au final jamais vu la couleur. Donc, on voit que, à l'exception peut-être de la renégociation fructueuse de l'ALENA, il y a assez peu de grands accomplissements tangibles qui restent pour le moment comme des signatures du premier mandat de Donald Trump. Donc, au final, si je reviens à ta question de départ, en quoi ça peut peut-être aussi influencer le vote du 3 novembre, j'ai envie de dire assez peu. On sait que les électeurs américains accordent très peu d'attention au projet de politique publique en tant que tel, et je crois que c'est encore plus évident dans la campagne de cette année. Une exception possible peut-être, ce serait le très grand nombre de juges que Donald Trump a nommés durant son premier mandat. Il y a près de 220 juges fédéraux qui ont été confirmés juste durant son premier mandat. C'est du jamais vu depuis Jimmy Carter, et c'est quelque chose dont la base conservatrice est très satisfaite, particulièrement vis-à-vis des 2 et possiblement 3 juges que Trump aura installés à la Cour suprême. Mais au final, par rapport à 2016, Trump a conservé des appuis remarquablement stables. On voit qu'il a perdu un peu de soutien auprès de certains groupes spécifiques, l'électorat des banlieues, les personnes âgées notamment. Mais je pense que c'est surtout lié à son image et son attitude, plus qu'à son bilan politique global, dont au final on a assez peu parlé, dont on parle toujours assez peu dans le débat public américain.
Son bilan sur la COVID-19 aussi retient beaucoup l'attention, mais je sais que tu en parles peu pour l'instant parce que Daphné va nous parler des grands enjeux de cette élection tout à l'heure. Julie-Pierre Nadeau, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les plateformes électorales des 2 candidats, Donald Trump et Joe Biden. Tu nous le dis bien dans le guide, et je pense que les gens l'ont vu en prenant connaissance des plateformes électorales, même si Alexis nous dit qu'il y a bien des électeurs qui ne regardent pas vraiment les plateformes électorales. Mais bon, si on les regarde, elles sont très différentes, ces plateformes électorales. Biden et Trump nous proposent des visions, des messages qui sont aux antipodes. Peux-tu nous rappeler un petit peu quelles sont les stratégies de chaque candidat pour rejoindre l'électorat américain? Et est-ce que ça marche pour le moment?
Et peut-être pour faire suite à ce que Alexis a avancé, je vais commencer par la plateforme de Donald Trump. C'est particulier la plateforme de Donald Trump cette année parce que, premièrement, si on va sur son site, il n'y a pas vraiment d'onglet de plateforme, tout simplement. On voit qu'il y a un onglet pour voir justement ses accomplissements des 4 dernières années, mais il n'y a rien qui offre une plateforme. Le Parti républicain n'a pas adopté de nouvelle plateforme cette année et ça se reflète en fait dans ce qui est proposé à travers les différents messages et j'ai quand même réussi à trouver une liste d'objectifs pour le deuxième mandat s'il y en a un de Donald Trump. Donc, ce qu'on constate à la lecture de ça, en fait, c'est que on dirait que Donald Trump roule sur sa plateforme qu'il avait prévue en février. Et je m'explique, c'est que son message n'a pas beaucoup changé depuis le début de la pandémie. En fait, il roule surtout sur ses succès, notamment au niveau économique, parce qu'en février, on se rappellera que le taux de chômage était au plus bas depuis des dizaines d'années. Donc, il vante ses succès économiques. Sa plateforme met l'accent sur ça et promet aux Américains de pouvoir répéter l'expérience, donc d'être la meilleure personne pour pouvoir sortir de la crise actuelle au regard de ses succès passés. Il y a aussi le retour de plusieurs thèmes qu'on avait vus en 2016. Alexis évoquait plusieurs promesses qui ont été remplies, mais il en reste encore des très importantes qui n'ont pas été remplies. On parle notamment du discours de l'America First qui reste toujours, les promesses en santé qui n'ont pas été remplies et qu'on ramène à l'avant-plan, donc offrir un meilleur plan d'accès aux soins de santé aux Américains et ce fameux discours de protéger les emplois américains d'une part des attaques de la Chine, d'autre part des immigrants non documentés qui viendraient voler les emplois aux bons Américains. Donc ce discours-là qui avait été très populaire en 2016 persiste toujours. Il y a de nouveaux enjeux, par contre, qui apparaissent cette année, et j'imagine que Daphné en parlera davantage, mais on parle de protéger notamment les forces de l'ordre et de mettre fin à l'épidémie de COVID-19 dès 2021, parce qu'on promet un retour à la normale très rapide du côté du camp Trump. Donc, une plateforme, somme toute, sans surprise, et qui a un ton, je dois dire, très, très, très patriotique. Et ça, c'est lié au message du camp Trump, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Du côté de Biden, avant tout, on voit cette élection comme un référendum sur la présidence Trump, mais au-delà de ça, il y a une plateforme très, très, très élaborée et détaillée du côté démocrate, une plateforme qui est ambitieuse, mais qui suit, somme toute, deux grands axes de valeurs ou de vision. La première, c'est de réduire les inégalités. La deuxième, c'est le plan de relance, évidemment, pour répondre à la crise actuelle. Donc, du côté des inégalités, on parle notamment des réformes fiscales, de la hausse du salaire minimum, d'une réforme du système de justice et de plus grand accès aux soins de santé. Donc, Joe Biden propose, lui, une option publique. Donc, bâtir sur l'Obamacare pour avoir davantage d'accès aux soins de santé. Du côté de la relance, en fait, on parle de création d'emplois, mais que ça passe par la lutte au changement climatique. Donc, on veut profiter de la crise actuelle pour réorienter l'économie américaine et proposer des investissements massifs en infrastructures et dans toutes les mesures qui serviraient à l'adaptation et à la prévention des changements climatiques. Donc, adapter les milieux de vie pour mieux faire face aux intempéries, par exemple, et aussi investir dans les énergies renouvelables pour adapter et changer, en fait, le mode de vie des Américains. Donc, tout ça est très opposé, en fait, à ce que propose Donald Trump, et on le voit aussi dans le message. Et là, je ne pensais jamais faire ça, mais je vais utiliser les propos de Donald Trump Jr., qui, pendant la convention républicaine, a dit que l'autre parti, donc les démocrates, attaque les principes sur lesquels le pays, les États-Unis, ont été fondés. Et pourquoi j'utilise cette citation-là? C'est parce que c'est intéressant cette année, parce que les deux partis semblent vouloir protéger les valeurs ou l'essence même des États-Unis. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur qu'est-ce que c'était à la base les valeurs américaines. Parce que si les deux disent vouloir les défendre, mais forcément, il y a quelqu'un qui ne défend pas la bonne chose. Et en fait, ce que ça montre, c'est que c'est une différente vision de ce que devrait être la promesse du rêve américain. Du côté de Donald Trump, on dit qu'on l'a déjà atteint, que les États-Unis sont déjà un pays d'opportunités, qu'ils sont déjà grandioses et qu'on peut simplement faire mieux, parce qu'on peut toujours faire mieux, évidemment, mais que de remettre en question cette grandeur-là, bien, c'est de renier ce que sont les États-Unis. Donc, on sent que c'est un message qui est ciblé, qui ne vise pas l'ensemble des Américains, et on ne s'en cache pas vraiment du côté de l'équipe Trump. On ne cible pas tous les Américains, on cible spécifiquement une base qui est très fidèle, comme Alexis l'a évoqué, et on vise à répéter, en fait, la stratégie qui a mené à la victoire de 2016. Donc, non pas essayer de créer un raz-de-marée, mais chercher à revigorer cette base qui est interpellée par un certain message très spécifique. Donc, de l'autre côté, Joe Biden lui dit que le climat de tension, de peur qu'on voit actuellement aux États-Unis, mais c'est le résultat d'un discours qui est très chaotique. C'est une période sombre, en fait, que Donald Trump a créée aux États-Unis. Il lui dit vouloir restaurer, to restore the soul of America, donc de restaurer l'âme des États-Unis. Et donc, un retour à la normale. C'est un message, en fait, qui s'adresse à tous ces gens qui, pour une raison ou une autre, considèrent que le discours de Donald Trump est très toxique pour le climat aux États-Unis, est toxique pour la société américaine et qu'il n'est pas un bon leader, que ce soit pour les décisions qu'il a prises dans les trois premières années et demie ou dans la gestion de la pandémie. Donc, il tente de rejoindre une coalition beaucoup plus large, oui, des électeurs démocrates habituels, mais aussi d'aller chercher certains électeurs républicains qui sont tout simplement insatisfaits de là où Donald Trump est en train de mener les États-Unis. Et chose très différente, mais qu'il faut préciser chez les démocrates comparé à 2016, on tente de garder les progressistes dans le camp des démocrates. Donc, un message qui est alimenté notamment par Bernie Sanders, qui est de dire si on veut espérer à un progrès réel, si on veut adopter des politiques de gauche éventuellement, mais la première étape, c'est de déloger Donald Trump parce que d'ici là, il n'y a rien qui est possible. Donc, c'est peut-être l'autre message des démocrates cette année. Donc, au final, avec tout ça, ce qu'on voit, c'est que Les électeurs sont confrontés à la question classique qu'on voit quand le président tente d'être réélu, c'est de savoir est-ce que les électeurs considèrent que les États-Unis sont réellement en ce moment dans la bonne direction ou non? Est-ce qu'on veut continuer avec le projet, le programme de Donald Trump ou est-ce qu'on veut corriger le tir et essayer la proposition de Joe Biden?
Merci beaucoup, Julie-Pierre. De belles promesses de la part des deux candidats. Et il y a un texte dans le guide qui porte également sur les autres élections du 3 novembre. Malheureusement, les deux chercheurs qui ont contribué au guide sur ces questions ne sont pas là aujourd'hui. Mais les autres élections, on parle notamment des élections au Congrès des États-Unis et toutes les promesses auxquelles tu fais référence sur le plan environnemental, l'augmentation des impôts des plus riches et tout ça, Biden pourra les réaliser à condition d'avoir les majorités nécessaires au Congrès pour adopter ces mesures-là. Donc, si les autres élections, notamment les élections au Congrès, vous intéressent, ben, sachez qu'il y a un texte là-dessus aussi dans le guide. Mais tu nous as parlé, Julie-Pierre, des électrices et des électeurs, hein, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent des candidats. Daphné a justement écrit dans le guide sur les enjeux de ces élections-là pour les électeurs et les électrices. Quels sont-ils, Daphné?
Oui, donc dans ce texte-ci que j'ai par ailleurs coécrit avec ma collègue Mathilde Bourgeon, qui ne pouvait pas être là, on a décidé d'aborder ce qu'on considérait les trois principaux enjeux de cette élection-ci et de faire ressortir chaque question saillante de ces enjeux-là. Le premier enjeu qui s'impose inévitablement, c'est la pandémie qui est venue redéfinir les priorités politiques et électorales, redéfinir même la façon dont on mène les campagnes cette année. Plus précisément, la première question, je pense, qui se pose beaucoup, c'est sur la question de la gestion de la pandémie par le président Trump. C'est au cœur de toutes les discussions, on l'a vu notamment dans le débat présidentiel et le débat vice-présidentiel. C'est sûr qu'avec plus de 7 millions d'Américains infectés à la COVID-19 et plus de 200 000 morts, le bilan américain est peu reluisant, si c'est peu dire. Pour l'instant, on constate, selon les sondages, qu'il y a à peu près un peu plus de la moitié, en fait, des Américains qui sont en désaccord avec la gestion ou qui critiquent cette gestion-là du président. Là, on l'a accusé d'être chaotique. On a aussi décrié le fait que le président ait délibérément minimisé la gravité de cette crise-là. Donc, ça incite les électeurs américains cette année à se questionner aussi sur quel type de leader ou de leadership ils souhaitent voir à la Maison-Blanche pour gérer une telle crise sanitaire. Bon, on a quand même deux candidats qui proposent des solutions ou des plans assez différents. Donc, Trump qui est peut-être dans une approche plus décentralisée, pas une intervention forte de la part du gouvernement fédéral. On veut un retour à la vie normale le plus rapidement possible, préserver l'ouverture de l'économie. On a du côté de Joe Biden un candidat qui dit qu'il serait peut-être plus... une réponse plus concertée ou plus forte de la part du gouvernement fédéral. Donc, c'est deux visions, une fois de plus, qui s'affrontent sur cet enjeu-là. Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que la majorité des Américains en âge de voter, donc, préfèrent Joe Biden à Trump quand on leur demande qui vous voulez qui gère cette crise. Par contre, si on décortique là, selon l'électorat, les lignes partisanes sont quand même très présentes. Les républicains appuient encore largement le président Trump. Les démocrates préfèrent Joe Biden. Ce qui est intéressant, c'est que chez les électeurs indépendants, l'appui à Trump n'est pas si élevé que ça non plus. On parle d'autour de 30 %. Donc, c'est peut-être ça l'indicateur le plus intéressant à ce niveau-là. Là, par contre, où les démocrates et les républicains semblent s'entendre, pour une rare fois, c'est peut-être pour dire que la COVID représente une menace pour l'économie américaine. C'est toujours un enjeu saillant, mais c'est d'autant plus cette année dans le contenu que les États-Unis, l'économie américaine est en récession, le taux de chômage, comme on mentionnait plus tôt, est particulièrement élevé. C'était 8 % en date de septembre, mais il y a eu un monté à un pic en avril à 14 %, ce qui est considérable. Puis mentionner aussi qu'il y a des populations beaucoup plus affectées par ce chômage-là. On parle des femmes et des membres des communautés ethnoculturelles. Donc, la question des emplois et de la vitalité des entreprises américaines est quand même au cœur des préoccupations des électeurs. Mais il y a aussi toute la question des inégalités et de l'insécurité économique qui ne sont pas des enjeux nouveaux. C'est juste que la pandémie les a peut-être exacerbés, puis mis de l'avant, mis au premier plan. Même chose pour des enjeux, des problématiques socio-économiques telles que la pauvreté, l'absence de filet social, l'accès aux soins de santé, la précarité des emplois. Ce sont tous des enjeux qui semblent occuper un peu plus les débats publics et l'esprit des Américains. Du moins, c'est ce qu'en témoignent les sondages. Et le troisième enjeu qu'on a voulu mettre de l'avant, c'est toute la question des tensions raciales qui sont aussi intimement liées à la question des inégalités économiques que la pandémie a pu exacerber. Donc, ce contexte-là de réalisation des inégalités, conjugué à la mort de notamment Breonna Taylor et George Floyd au mois de mars, ont créé un terreau fertile pour toutes les manifestations qu'on a vues, auxquelles on a assisté au printemps, à l'été et encore aujourd'hui, sous l'égide du mouvement Black Lives Matter. Puis la vitalité, l'ampleur et la longévité de ces mouvements-là, en fait, ont fait en sorte que cette année, on accorde à ces enjeux-là beaucoup plus d'attention peut-être que lors d'élections précédentes. Donc, autant les campagnes, les électeurs que dans les débats, c'est des questions qui reviennent à l'avant-plan souvent. Encore une fois, sans surprise, les réponses des deux candidats sont assez dichotomiques. Du côté du président Trump, on parle plus de la loi et l'ordre, on met l'accent sur toute la violence qui ont pu entourer ces manifestations-là. Du côté de Joe Biden, on veut plus insister sur justement l'enjeu sous-jacent qui est la brutalité policière et l'insécurité et la disparité économique que vivent ces communautés-là. Sur cet enjeu-là, les Américains, pour l'instant, semblent préférer Biden. En fait, jugent que Biden serait peut-être plus apte à gérer cette crise-là. Puis, en guise de conclusion, bon, on regardait des graphiques sur les intentions de vote. Puis, ce qu'on constate, c'est que malgré ces trois grandes crises-là, c'est-à-dire sanitaire, économique, puis liées aux tensions raciales, les intentions de vote n'ont pas beaucoup bougé. Donc, on en conclut presque, dans le fond, est-ce que c'est vraiment les enjeux qui sont décisifs ou c'est pas plutôt un référendum, comme on disait, sur la personnalité et la présidence de Donald Trump? Puis, il y a des données qui nous incitent à croire que cette thèse-là serait peut-être confirmée quand on sonde les partisans de Joe Biden, à savoir pourquoi ils votent pour Joe Biden. La principale réponse, c'est parce qu'on veut s'opposer au président. Donc, c'est pas un vote nécessairement pour Biden, mais plus contre le président. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait avec ce texte-là. Puis juste mentionner qu'on propose aussi un petit encadré sur les enjeux climatiques qu'on trouvait quand même pertinent à intégrer dans le cadre de ce guide-là. Ça sera peut-être pas un enjeu décisif cette année, mais c'est un enjeu qui préoccupe et de plus en plus élection après élection et qui préoccupe aussi des franges de la population, de l'électorat qu'on regarde peut-être un peu moins, c'est-à-dire les jeunes. Donc, on a un petit topo là, sur quoi surveiller sur les enjeux climatiques aussi dans ce guide-là.
Merci, Daphné. Dans le guide, il y a un autre encadré aussi sur les fameux sondages. Est-ce qu'on peut se fier aux sondages après ce qu'on a vu en 2016? C'est un encadré qui rappelle quand même un certain nombre de choses. Les sondages à l'échelle nationale en 2016 étaient assez justes. Si on regarde le résultat final et qu'on compare à ce qu'estimaient les sondeurs le soir ou la veille de l'élection qui opposait M. Trump et Mme Clinton à l'époque. Et encore cette année, bon, ce sont plutôt en 2016, des sondages dans certains États-clés de l'élection qui nous ont induits en erreur, et notamment dans trois États dont on va parler tantôt. Et je parle des États-clés de l'élection parce que, évidemment, on utilise encore un système qui n'est pas toujours bien compris, qui n'est pas toujours facile à comprendre pour élire le président des États-Unis. Et ce système-là, c'est le système du collège électoral. Donc, Frédéric Véraud et moi avions la lourde tâche, la tâche pas toujours facile, qui consiste à expliquer ce que c'est le collège électoral. C'est important de garder ça à l'esprit et de bien connaître le fonctionnement de ce système. Je reviens au sondage. À l'échelle nationale, en ce moment, M. Biden a une avance un peu plus nette dans les intentions de vote au pays que dans certains États-clés de l'élection. Et on se rappelle que M. Trump avait gagné en 2016 au collège électoral sans obtenir plus de votes que Mme Clinton au pays. Même chose en 2000, quand W. Bush a gagné contre M. Gore. Il a gagné M. Bush au collège électoral, mais au pays, M. Gore avait obtenu plus de votes que W. Bush. Donc, Frédéric, peux-tu juste nous rappeler un petit peu comment fonctionne ce système du collège électoral? Et j'ai envie de te demander comment la pandémie, parce qu'on a parlé de la COVID-19, c'est un enjeu, mais comment ça affecte le vote cette année? La manière dont on vote, notamment, avec tout ce qu'on dit à propos du vote par la poste, le vote par correspondance.
Bien, merci Frédéric. Et tout d'abord, quelques mots sur le collège électoral. C'est effectivement une institution qui est très mal connue et difficile à comprendre pour nous, Québécois et Canadiens, qui avons un mode de scrutin direct. Aux États-Unis, c'est un mode de scrutin qui est indirect, puisque les pères fondateurs souhaitaient instituer un rempart pour notamment contenir les humeurs populaires, la corruption ou encore l'élection d'un candidat démagogue. Donc, le jour de l'élection, qui est toujours le mardi suivant le premier lundi du mois de novembre, la population américaine choisit les grands électeurs qui, eux, sont affiliés à l'un ou l'autre des candidats. Et chaque État possède un nombre de grands électeurs qui équivaut au nombre de sénateurs et de représentants de chaque État, pour un total de 538 grands électeurs qui forment le collège électoral. Et pour s'assurer d'une victoire, un candidat doit amasser une majorité simple de 270 grands électeurs, qui est un chiffre extrêmement important à garder en tête, puisque 270 égale la victoire pour un candidat présidentiel. Et puis, l'attribution des grands électeurs se fait selon la règle du « gagnant remporte tout », le fameux « winner takes all », sauf dans le cas du Maine et du Nebraska. Par conséquent, lorsqu'un candidat va remporter le vote populaire dans un État, il va remporter tous les grands électeurs de cet État-là. Et cela explique pourquoi, dans certains grands États plus compétitifs, comme par exemple la Floride, la Pennsylvanie ou l'Ohio, eh bien, les candidats font beaucoup campagne et mettent beaucoup l'accent pour remporter ces États-là. Maintenant, pour ce qui est de l'impact de la pandémie sur le processus électoral, eh bien, ils sont multiples. D'abord, on constate cette année que les démocrates tentent à tout prix d'accroître la participation électorale en se basant sur l'idée qu'un taux de participation électorale élevé favorise leur parti. Donc, on va privilégier des moyens virtuels pour inciter les Américains à voter et faciliter leur inscription sur les listes électorales ainsi que les demandes de bulletins de vote par correspondance. Et puis, on va même jusqu'à s'associer avec des célébrités ou des gens très connus pour partager de l'information sur le vote et tenter de rejoindre le plus grand nombre d'Américains possible et surtout des franges de l'électorat qui ont peut-être moins tendance à voter, comme les jeunes, par exemple. Du côté républicain, on se base sur l'idée inverse, c'est-à-dire qu'un taux de participation plus faible va favoriser le parti. Et on se base aussi sur l'idée que le vote par correspondance risque fortement de provenir de grandes villes à tendance démocrate, où est-ce qu'on aurait des électeurs qui seraient moins friands à sortir voter directement en raison de la pandémie. Alors, on va constater certaines stratégies pour essayer de limiter l'accès au vote. Notamment, on va s'opposer aux changements qui visent à faciliter le vote par correspondance ou encore on va tenter d'invalider des lois qui facilitent l'accès aux urnes. Et le président va même jusqu'à adopter une rhétorique qu'on pourrait qualifier d'antidémocratique pour décourager les électeurs à voter en affirmant que le vote par la poste est un gage de fraude massive. Et à cet égard-là, la Brookings Institute a complètement déboulonné cette affirmation-là puisqu'ils se sont penchés sur le vote de 1982 à 2018 et n'ont trouvé que 0,007% de fraude en ce qui concerne le vote postal. C'est donc dire que c'est extrêmement minime. D'un autre côté, on avait aussi peur que les services postaux américains aient de la difficulté à répondre à la demande en ce qui concerne le vote par la poste. Par contre, on voit déjà une grande affluence d'Américains qui ont envoyé leur scrutin ou qui l'ont déposé dans des urnes par anticipation. Et donc, on croit que les services postaux américains devraient être en mesure de bien fonctionner en vue d'élection. Donc, ce qui m'amène à vous dire que le plus grand impact de la pandémie risque on risque de le voir au niveau du 3 novembre directement, ce qui va rendre en fait la comptabilisation des votes beaucoup plus longue que prévu et on risque de ne pas connaître en fait le résultat de l'élection le soir du 3 novembre. Il pourrait donc s'en suivre potentiellement une semaine électorale, voire plus, et peut-être une saga judiciaire un peu à l'image de celle de 2000 entre Al Gore et George W. Bush en Floride, mais peut-être cette fois-ci à plus grande échelle. Donc, tout reste à voir pour ce qui est du 3 novembre.
C'est le scénario redouté par les démocrates, évidemment, et bien des des gens qui souhaiteraient que Trump perde l'élection, c'est-à-dire cette idée que le résultat ne soit pas clair le soir du 3 novembre, ce qui donnerait peut-être l'occasion à M. Trump de dire « je ne reconnais pas le résultat du vote ». Et ce que Frédéric dit est très important, et je veux peut-être ajouter un élément d'information qui me semble crucial, et ça va nous permettre de parler des fameux états-clés de l'élection. La date à laquelle on cesse de compter des votes durant cette élection dépend d'un État à l'autre. Ce que ça veut dire ça, c'est qu'il y a des États qui accepteront de recevoir des votes. Il faut envoyer le vote avant le 3 novembre, là, si on l'envoie par la poste. Il y a des États qui acceptent de comptabiliser les votes, même si ces votes sont reçus après la date du 3 novembre. Et il y a beaucoup d'États clés de l'élection où c'est le cas. La Caroline du Nord et la Pennsylvanie jusqu'au 6 novembre. Le Wisconsin jusqu'au 9 novembre. L'Ohio jusqu'au 13 novembre. Le Michigan jusqu'à 14 jours après l'élection. Donc, imaginez si les résultats sont serrés dans plusieurs de ces États clés. Il va falloir, comme le dit très bien Frédéric, peut-être une semaine, quelques semaines avant de connaître le résultat de l'élection. Il y a un État clé qui n'accepte pas de compter des votes après la date du 3 novembre, et c'est la Floride. Et c'est la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles les deux partis accordent beaucoup d'importance à cet État-là. Symboliquement, si c'est possible de gagner la Floride le soir de l'élection, ça devient difficile pour notre adversaire de dire « ben, on va attendre les votes du Michigan et des autres États dont je viens de parler ». Donc, en gros, si Biden gagne la Floride le 3 novembre, et qu'on le sait le 3 novembre, mais ce n'est pas sûr non plus parce que c'est toujours serré en Floride. Mais si on le sait le 3 novembre que Biden a gagné la Floride, là, ça devient un petit peu plus difficile pour Trump de dire « on va attendre le reste des votes du Michigan et tout ça okay? ». D'autant que, comme Frédéric le disait, les votes par correspondance, pour l'instant, semble-t-il, seront davantage des votes acquis aux démocrates de grandes villes où on a peut-être un petit peu plus peur de voter en raison de la pandémie. Et dernière information importante, il y a déjà plus de 10 millions de personnes qui ont voté par anticipation. Ça aussi, c'est considérable. Ce sont des gens pour qui tout ce qui se passe d'ici le 3 novembre n'a plus d'effet. Ça n'a plus d'importance. Le vote est déjà envoyé. Donc, on va continuer la discussion. Justement, j'ai commencé à parler un petit peu de ces états-clés de l'élection. Il y a deux textes sur les états-clés de l'élection. Un premier texte sur le Midwest. Et un deuxième texte sur les États du Sud. On va commencer par les États du Midwest. C'est David Dubé et Alexis Rapin qui ont écrit un texte là-dessus. Bon, plusieurs États, évidemment, sont à surveiller dans cette région. Le Wisconsin, la Pennsylvanie, le Michigan, l'Ohio, l'Iowa. Si on se fie au sondage, Biden semble en bonne position pour gagner dans plusieurs de ces États. Mais j'aimerais, David, que tu nous rappelles pourquoi ces États sont si importants en vue du 3 novembre et quelles sont les stratégies des deux partis pour gagner dans ces États-là?
Ben vraiment, merci Frédéric. Excellente question. Effectivement, le Midwest américain contient plusieurs États-clés pour l'élection présidentielle de 2020. Comme tu l'as mentionné, on a le Michigan, le Wisconsin, l'Ohio, la Pennsylvanie, mais aussi l'Iowa, qui a commencé à être pas mal compétitif dans les dernières semaines. D'entrée de jeu, tu mentionnais justement le collège électoral dans ta question. Eh bien, faut le rappeler, ces États-là représentent 70 votes au collège électoral sur les 270 qui sont nécessaires pour gagner la présidence. Donc, ça démontre déjà rapidement l'intérêt pour les deux candidats, finalement, de faire campagne dans ces États-là, puis de les gagner. Pour entrer davantage, peut-être, dans l'importance de ces États-là, qui semblent finalement toujours se retrouver au cœur des élections présidentielles, et surtout, il faut le mentionner, là, pour les démocrates, il est important de mentionner que la plupart des États étaient historiquement acquis au Parti démocrate, et qu'on les incluait notamment dans ce qu'on appelait, hein, le « blue wall » ou le « mur bleu », ce qui a amené, par exemple, certaines personnes à prendre une part importante de l'électorat pour acquis. Par exemple, en 2016, Hillary Clinton a fait peu campagne dans ces États-là, puis plusieurs lui avaient reproché, par exemple, de ne pas être allé au Wisconsin, État qui a d'ailleurs été gagné par Donald Trump. Puis avec, justement, le succès de Trump, hein, qui a gagné les cinq États dont on parlait tout à l'heure en 2016, ça laisse croire que le Midwest devient une région beaucoup plus compétitive et puis qu'aucun parti, finalement, peut le prendre pour acquis. Peut-être pour mieux comprendre les enjeux de 2020, on peut retourner brièvement sur l'élection de 2016 et se demander pourquoi, finalement, ou comment Trump a réussi à renverser la tendance puis surprendre plusieurs personnes. À bien des égards, le résultat de l'élection peut peut-être s'expliquer par une convergence entre les différents électorats vers un rejet de la mondialisation et du libre marché. Puis ici, je m'explique. L'électorat du Midwest est divisé entre la fameuse Rust Belt ou ceinture de rouille, dominée en fait par les grands centres autour des grandes villes de Chicago, Détroit, Milwaukee, Cleveland ou encore Pittsburgh, qui est vu finalement comme le poumon industriel du pays, mais aussi par la fameuse Corn Belt, qui est la ceinture de maïs, qui, elle, représente toutes les régions rurales dans ces mêmes États-là, puis qui est un centre important de la production agricole américaine. Puis dans ces deux sous-régions-là, finalement, ce qui est important, c'est que les deux populations ont été fortement touchées par les vagues de délocalisation des usines des années 80-90, mais aussi par la hausse de la compétitivité des marchés créée par les signatures de traités. Là, on parle environ d'une perte de 5 millions d'emplois depuis 2020. Donc, l'économie, c'est très, très, très important pour ces personnes-là. Puis ce petit retour sur l'électorat permet peut-être de comprendre un peu pourquoi le discours anti-libre-échange de Trump lui a permis de rallier beaucoup d'électorats du Midwest américain en 2016. Puis pendant ces 4 années, il a martelé ce discours-là, il a renégocié l'ALENA, comme on parlait plus tôt, il a déclenché une guerre commerciale avec la Chine, avec la promesse de ramener des emplois dans la région, ce qui n'a concrètement pas vraiment arrivé, ce qui ouvre potentiellement la porte à une reconsidération du vote pour plusieurs personnes en 2020. Si on utilise les élections de mi-mandat en 2018, peut-être comme baromètre, un peu pour nous aider à comprendre cette importance-là de ces États-là, nous ont démontré qu'il y a peut-être une tendance justement à retourner vers le Parti démocrate, parce que les démocrates ont repris les sièges de gouverneur du Wisconsin et du Michigan, en plus de prendre 15 sièges à la Chambre des représentants, mais aussi assurer la réélection de 4 de leurs sénateurs dans 4 de ces 5 États-là. Ce qui peut donner peut-être l'impression aussi que l'électorat tergiverse entre les deux partis, ou plutôt que les deux partis en fait ont du travail à faire, puis qu'il n'y en a aucun qui peut vraiment prendre pour acquis ces états-clés-là. Puis au niveau des stratégies des deux candidats, pour ce qui est du président Trump, là, peu importe le résultat de ses politiques commerciales, lui, il maintient son support finalement à l'électorat des ouvriers, des ouvrières blancs et blanches, en rappelant la réussite de sa renégociation de l'ALENA avec la CEUM. D'un autre côté aussi, après les manifestations et les émeutes à Minneapolis puis Kenosha, Trump joue beaucoup la carte de la loi et l'ordre sur cet électorat-là pour se rapprocher un peu de l'électorat des banlieues, stipulant que c'est lui le candidat qui peut empêcher que cette violence-là se transporte dans les banlieues américaines pour essayer d'aller rechercher ce vote-là. Puis du côté de Biden, justement pour lui rebâtir le fameux Blue Wall, c'est primordial s'il veut accéder à la Maison-Blanche. Il est natif de Scranton en Pennsylvanie, puis il a remporté quand même un appui assez intéressant là, dans les primaires dans la région, ce qui semble bien positionné pour le 3 novembre, si on se fie au sondage. Sa stratégie, par exemple, est un petit peu moins claire peut-être que Trump, mais au lendemain justement des émeutes de Kenosha et Minneapolis, là, il a beaucoup joué sur la mobilisation de la population afro-américaine de la région. Ce qu'Obama, d'ailleurs, avait réussi à très bien faire en 2008 puis en 2012 en faisant sortir le vote. Puis c'est un électorat aussi qui est concentré dans les grandes villes de la Rust Belt, dont on parlait plus tôt. Et puis, il semble aussi aller jouer sur le terrain de Trump en essayant de courtiser cet électorat, finalement, des travailleurs et des travailleuses blancs et blanches, qui étaient historiquement acquis au parti pour peut-être essayer de créer une certaine coalition de personnes qui vont pouvoir aller voter massivement puis lui permettre de reprendre ces états-là à Trump. Puis finalement, le Midwest, ça démontre en fait que le Midwest est toujours primordial pour les deux candidats là, parce qu'ils ont besoin du poids de ces États-là s'ils aspirent à gagner le 3 novembre prochain. Donc, ils ont besoin quand même de certains de ces États-là. Ils ne peuvent pas les oublier complètement.
Merci, David. Et ça, encore une fois, c'est l'effet du fameux collège électoral. On ne fait pas campagne partout au pays. On fait campagne dans quelques régions où ça risque de se jouer. Et ça vaut pour les visites des candidats. Regardez où ils se rendent d'un jour à l'autre, où est-ce qu'ils organisent leur rassemblement. Ce sont toujours ces États-là qui sont visés. Les dépenses électorales aussi, les publicités à la télévision. Il y a de très belles cartes qui ont été préparées par le New York Times, par le Washington Post. D'ailleurs, dans le guide qu'on met à votre disposition aujourd'hui, il y a toute une série aussi de liens, de sites à consulter si vous voulez aller plus loin là-dessus. Mais le Midwest, comme le dit David, est une région très, très importante. Et il y en a une autre, c'est le sud des États-Unis. Et Andréane et Julien Toureille, Andréane Bissonnette et Julien Toureille, se sont concentrés un petit peu plus sur le sud, qui est curieusement, parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ce n'était pas un champ de bataille électoral aussi crucial. Mais cette année, semble-t-il, les choses changent. Et donc, Andréanne et Julien ont travaillé sur cette région. Andréanne, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu retiens à propos des électorats clés de cette région et aussi des États à surveiller le 3 novembre dans le sud des États-Unis.
Oui, donc cette année, une surprise de 2020, si on veut, ce sont le nombre d'États clés dans le sud des États-Unis. Et pour vous les présenter, j'aimerais diviser en deux temps. Donc d'abord, trois États vraiment dits clés. Donc on a d'abord la Floride. Frédéric, tu en as parlé un petit peu plus tôt de l'importance de cet État-là. Et c'est un État qui est dit État pivot par excellence, qui a voté pour le parti qui a remporté les élections depuis de nombreuses années. Donc systématiquement, d'élection à l'autre, vote pour le gagnant, en fait. Et c'est un État qui a vraiment une division de l'électorat et une très grande diversité ethnoculturelle. Donc, on voit plusieurs zones distinctes en Floride. Le nord de l'État versus le sud de l'État, ce sont deux dynamiques électorales différentes. On a également un axe autoroutier le long duquel on a les grandes villes de la Floride. Et dans ces villes-là, on voit davantage de votes pour le Parti démocrate, alors que tout ce qui est au nord de l'État vote davantage républicain. Et le caractère d'État pivot de cet État-là a fait en sorte que les deux partis ont investi massivement. Donald Trump a notamment relocalisé sa résidence personnelle en Floride dans les dernières années, a fait de Mar-a-Lago une petite maison blanche du Sud. Et du côté de Biden, on va vraiment courtiser l'électorat portoricain parce que suite à l'ouragan Maria en 2017, on a vu vraiment un mouvement de population de portoricains vers la Floride. Et c'est un électorat qui est plutôt fâché là, par rapport à la réponse de Donald Trump à des suites de cet ouragan-là. Un autre État qui est traditionnellement pivot dans le Sud, c'est la Caroline du Nord. Donc, la Caroline du Nord est un État qui est intéressant de regarder en termes de diversité interne de l'État parce que ça représente un changement démographique qui peut être observable dans d'autres États aux États-Unis également. Donc, on a un État où les villes et les banlieues sont de plus en plus diversifiées et démocrates et où les zones rurales sont de plus en plus blanches et républicaines. Et c'est quelque chose qu'on voit particulièrement en Caroline du Nord. Et dans cet État-là, on voit donc qu'il y a aussi une forte population, donc jeune dans les trois universités, donc dans le triangle universitaire en Caroline du Nord, et également une population afro-américaine. Donc, c'est beaucoup les enjeux de suppression du vote sont très présents et à l'avant-scène en Caroline du Nord. Le troisième État à mettre dans ces États pivots du Sud, c'est un nouveau, en fait, en 2020, c'est l'Arizona. Donc, en 2016, on sentait déjà que l'Arizona devenait de plus en plus compétitif. On avait vu Mme Clinton mettre énormément de temps, d'argent et de ressources dans cet État qui n'avait finalement pas tourné au bleu. Mais deux ans plus tard, lors des élections de mi-mandat, la candidate démocrate a remporté le siège au Sénat. Et cette année, on voit que tant le candidat démocrate pour le deuxième siège au Sénat que M. Biden mènent dans les sondages dans un État qui traditionnellement était conservateur. Mais qu'on voit que la part de la population latino-américaine, mais aussi l'électorat de 65 ans et plus, qui est échaudé par la réponse de M. Trump à la pandémie, constitue une base pour M. Biden et qui pourrait faire virer en fait l'Arizona au bleu. De l'autre côté, on a deux États qui sont totalement une surprise dans le Sud de dire qu'ils ne sont pas des bastions républicains cette année, et c'est le Texas et la Géorgie. Donc, la Géorgie, on n'en avait pas parlé dans le guide parce que ça s'est vraiment fait très rapidement dans les dernières semaines. Et ce matin, ça a été annoncé que la Géorgie est maintenant ce qu'on appelle un « toss-up ». Donc, en fait, que ça pourrait aller d'un côté ou de l'autre le 3 novembre prochain. Et ce sont deux États qui sont très diversifiés. En Géorgie, on a une forte population afro-américaine. Au Texas, 39% de l'électorat est latino-américain. Mais ce sont deux États qui sont marqués par de nombreuses méthodes de suppression du vote et donc qui risquent de rester républicains cette année, mais qui sont deux lieux où on voit vraiment un changement démographique et comment le changement démographique aux États-Unis peut avoir une influence sur l'issue du vote. Donc, en changement démographique, on parle de mouvement de population à l'interne. On a remarqué au Texas une augmentation de la migration de la Californie vers le Texas, donc des idées plus libérales qui viennent changer le portrait idéologique de l'État, mais également la part de minorités ethnoculturelles dans l'électorat. Donc, ces cinq États-là font du Sud donc un lieu très intéressant cette année et pour les années à venir également.
Et de l'autre côté de ta question, Frédéric, la question des électorats, bon, j'en ai parlé un petit peu, là, les latino-américains et les afro-américains sont deux électorats traditionnellement qu'on regarde. D'une part, les latino-américains parce que leur poids électoral est grandissant élection après élection. Cette année, ils représentent 13,3% de l'électorat. C'est la première minorité ethnoculturelle en termes de poids électoral. On dépasse pour la première fois les afro-américains. Mais c'est un électorat qui est surnommé le géant dormant parce qu'on a, malgré ce fort poids électoral, on a une participation électorale qui est anémique par rapport aux autres groupes de l'électorat. Restera à voir si 2020 sera finalement l'année où ils se réveilleront parce que 2018 a été une année où on a une augmentation de la participation de l'électorat latino-américain lors des élections de mi-mandat et on voit qu'il y a vraiment une tentative de mobilisation sur le terrain. On peut penser notamment à Beto O'Rourke, ancien candidat à l'investiture démocrate, qui a vraiment mis en place tout un programme de mobilisation de l'électorat latino-américain au Texas pour faire sortir le vote. Donc, on réalise du côté démocrate le potentiel de cet électorat-là, mais ce sera de voir est-ce qu'on est capable de parler d'enjeux qui viennent toucher l'électorat et est-ce qu'on peut minimiser les impacts des méthodes de suppression du vote. Deux autres électorats qui m'apparaissent intéressants à surveiller. Je vais conclure avec ce point-là. Julien et moi, on a identifié donc les électrices et les républicains qui voteront pour Biden comme étant deux autres électorats à surveiller. Du côté des électrices, on voit que les femmes, en fait, depuis 1980, votent davantage que les hommes et sont de plus en plus actives politiquement. Et ce qui est intéressant cette année également, c'est le nombre de candidates qui se présentent à des postes électifs, qu'on parle du Sénat, de la Chambre des représentants, mais également au niveau des législatures d'État. Et on voit que les électrices dans les banlieues et dans les États clés du Midwest, dont David parlait, pourraient avoir un impact significatif en termes du gap de genre. Donc, le fait que les femmes votent davantage que les hommes et appuient davantage le Parti démocrate que les hommes. Donc, c'est quelque chose qui peut avoir un impact tant dans le Midwest, mais aussi dans des luttes sénatoriales serrées. Donc, pour le Parti démocrate, c'est important pour regagner le contrôle du Sénat. Et de l'autre côté, on a donc tout l'électorat républicain contre Trump, donc qui pourrait être illustré là, vraiment par le Lincoln Project, qui est ce groupe d'action politique qui a été mis en place en décembre dernier et qui tente de mobiliser les électeurs républicains qui n'approuvent pas de la personnalité du président Trump et de ses politiques à soutenir la candidature de Biden pour avoir un changement au niveau de la gouvernance à Washington. Donc, ce sont quatre électorats à surveiller qui pourraient avoir un impact dans des États clés, tant dans les États du Sud que dans les États du Midwest. Et ce sera intéressant de voir donc, le Sud changer dans les prochaines élections et le mouvement démographique également.
Merci, Andréane. Il y a un autre électorat clé dont on parle dans ce guide, c'est celui des électeurs et des électrices évangéliques blancs, qui sont évidemment très présents dans le Sud des États-Unis, qu'on appelle souvent la « Bible Belt ». Véronique Pronovost, tu nous parles de cet électorat dans le guide, un électorat qui fait partie de la base républicaine depuis la présidence de Ronald Reagan. Bon, George W. Bush a beaucoup misé avec succès sur cet électorat-là aussi pour sa réélection en 2004. Et plus près de nous, Donald Trump a reçu beaucoup, beaucoup d'appui, énormément d'appui auprès de ses électeurs et électrices. Qu'en est-il de 2020? Est-ce qu'après 4 années de Trump, les évangéliques blancs appuient toujours ce président? Sont-ils toujours au rendez-vous le 3 novembre?
Eh bien, justement, pour faire du pouce sur ce qu'Andréane vient de dire, justement, c'est peut-être quelque chose qui ne bouge pas en ce moment dans le sud des États-Unis, cet appui envers Donald Trump qui semble à toute fin pratique indéfectible en ce moment de la part des évangéliques blancs. Peut-être déjà nommé qui représente entre 12 et 15 % de la population états-unienne et qu'aux aux élections de 2016, ils ont appuyé Donald Trump à la hauteur d'environ 80 % Et selon les récents sondages là, sur les intentions de vote, c'est à peu près le même pourcentage de ces évangéliques blancs qui comptent appuyer Donald Trump le 3 novembre prochain. Donc, pourquoi s'y intéresser si l'électorat, cette part de l'électorat est acquis au parti? Ben, d'abord, hein, le Parti républicain continue d'avoir besoin de leur appui, surtout dans le contexte actuel où est-ce que, quand même, hein, leur victoire est vraiment pas assurée. Mais aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a des erreurs qui se reproduisent quand on essaie d'étudier ces mouvements-là et qu'on essaie de voir leur influence ou leur importance. En fait. D'abord, peut-être la première erreur qui est souvent faite quand on s'intéresse au conservatisme social aux États-Unis, c'est de croire que les évangéliques blancs, ce sont les seuls qui portent ces revendications et qui portent justement là, cette idéologie du conservatisme moral ou social. Il y a d'autres individus de d'autres dénominations religieuses, majoritairement chrétiennes, qui portent ce genre de discours. On a aussi vu au cours des dernières années l'émergence d'un mouvement qui se dit athée, mais qui appuie quand même les revendications, notamment, je pense, au droit et à l'accès à l'avortement, qui vont quand même supporter les mêmes positions que les évangéliques blancs. Et donc, tous ces individus-là ne sont pas pris en compte dans le 12 à 15 de départ et ils représenteraient donc un poids électoral probablement un peu plus important. Il faut aussi prendre en compte qu'outre ce noyau dur-là, il y a aussi d'autres individus qui sont en accord avec des revendications que je dirais morcelées, hein, qui sont mises de l'avant par cette fameuse coalition de la droite religieuse. Et encore une fois, je fais référence à, notamment là, au droit à l'avortement, où est-ce que certaines personnes vont être contre l'interdiction pure et dure, mais vont quand même être pour le fait d'imposer certaines restrictions. Donc, on va quand même essayer d'aller chercher et mobiliser cette part-là aussi de l'électorat là, dans cette grande coalition. Et elle est rarement prise en compte, justement, quand on parle des sondages ou qu'on parle, justement, là, de stratégie électorale. La deuxième erreur que je vois qui se reproduit souvent, c'est d'essayer d'analyser ou de comprendre l'influence ou l'importance de la droite religieuse en observant seulement les changements législatifs qui se produisent ou qui réussissent à mettre de l'avant. Ça nous amène malheureusement à minimiser leur impact. Et par exemple, là, il y a un enjeu sociopolitique qui est la polarisation des partis qui gagnerait à être analysé en lien avec les mouvements sociaux. Hein? Notamment, on peut penser à l'institutionnalisation d'une part de ces mouvements sociaux-là qui ont des positions très tranchées, notamment sur les libertés religieuses, sur la question de l'accès à l'avortement. Et donc, on se retrouve actuellement avec une surreprésentation de ces idées ultra-conservatrices à différents paliers de gouvernance. Donc, on parle des échelles locales, des échelles de l'État et aussi du Congrès. Ils sont surreprésentés par rapport à leur présence dans la population. L'une des illustrations les plus évidentes là, de cette institutionnalisation-là, c'est évidemment la présence de Mike Pence, qui lui-même est issu de cette droite religieuse. Et donc, la stratégie politique de la droite religieuse dépasse largement le cadre législatif et le cadre politique même, j'aimerais dire. Ils ont une volonté de changer la culture, les valeurs et l'identité américaine en s'inscrivant à l'intérieur, oui, des institutions politiques, certainement, mais aussi judiciaires, culturelles. On peut même penser là, à des niveaux plus locaux, aux commissions scolaires même, où est-ce qu'ils commencent à investir tranquillement ces lieux-là. Et donc, comme mon collègue de l'Université Concordia, le professeur André Gagné, lui parle de dominionnisme, c'est-à-dire de la mise de l'avant d'un projet de société beaucoup plus global, en fait, qui est basé sur cette idéologie conservatrice sociale. Donc, c'est sûr que si on se limite à regarder les changements législatifs, j'ai l'impression qu'on passe à côté d'un paquet d'initiatives, de discours et même d'acteurs là, qui contribuent à influencer et à faire avancer ce projet politique-là qui est de très longue haleine, on va se le dire. Donc, si je reviens à Trump et aux élections qui vont avoir lieu dans moins d'un mois, oui, cette élection-là est importante, mais bien qu'on sente là, une légère baisse dans l'appui des évangéliques blancs envers Trump au cours des dernières semaines, il faut voir au-delà du 3 novembre. Donc, ce matin, si je ne me trompe pas, c'était le début des auditions concernant la confirmation de la juge Amy Coney Barrett, qui est elle-même issue de cette tendance conservatrice sociale. Et donc, il n'y a pas grand-chose que les démocrates peuvent faire pour stopper ce processus-là. De la même façon, Trump a aussi nommé un nombre impressionnant de juges à toutes les échelles judiciaires depuis le début de son mandat. Donc, l'élection ne changera pas nécessairement ce nouveau paysage judiciaire et il ne devrait pas non plus changer diamétralement le paysage en termes de gouvernance locale. Et là, je pense notamment aux shérifs, aux maires, aux conseils municipaux qui ont une influence qui est souvent sous-estimée. Donc, si la polarisation se poursuit, ça pourrait nuire au Parti républicain qui va perdre le centre et les modérés, surtout si on considère justement le poids démographique des évangéliques qui est en déclin, un lent déclin, mais un déclin certes, et l'accroissement de la diversité au sein de la population. Et donc, le Parti républicain va vraiment avoir beaucoup de travail à faire là, pour reconquérir certains groupes démographiques de la population, sans quoi le fait de reposer sur le gerrymandering, la suppression du vote et les lacunes démocratiques liées au fonctionnement du collège électoral, ce sera plus suffisant là, pour les porter au pouvoir.
Et on va terminer ce tour de table avec Victor Bardoux-Bourgeois, qui a écrit un texte sur l'effet de cette élection sur le Canada et sur le Québec. Il l'a écrit avec Christophe Cloutier-Roy, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. C'est un texte dans lequel Christophe et Victor nous parlent de l'effet de l'élection sur la mise en œuvre de l'AEUMC, l'ACEUM, le nouvel accord de commerce entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, sur les tarifs aussi de Trump à l'égard du Canada dans le dossier, en fait, dans le secteur de l'aluminium. Donc, on aborde plein de choses dans ce texte-là, mais également l'effet du 3 novembre de cette élection-là sur les exportations d'hydroélectricité québécoise aux États-Unis. Et je pense que Victor s'est penché un petit peu plus spécifiquement sur ce thème-là. Victor, veux-tu nous dire quelques mots là-dessus, s'il te plaît?
Oui, merci Frédéric. Rapidement, dans le fond, moi, l'enjeu de l'hydroélectricité et de la, si on veut, là, des projets d'exportation d'hydroélectricité québécoise vers les États-Unis, c'est un peu un microcosme à la fois de la mobilisation politique aux États-Unis, mais aussi de si on veut, de la relation Canada-États-Unis à notre époque. Et donc, rapidement, cet enjeu-là, dans le fond, c'est la campagne électorale du 3 novembre et le scrutin du 3 novembre prochain, c'est surtout une occasion pour les opposants locaux au projet de ligne haute tension qui serviront à relier le Québec aux États-Unis, dans le fond, d'avoir de la visibilité, de faire valoir leurs arguments pour surtout tenter d'empêcher la construction de ces projets de ligne-là. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont peut-être pas super familiers avec cet enjeu-là précisément, il y a deux projets de ligne sur la table. Donc, il y a le New England Clean Energy Connect qui relierait le Québec au Massachusetts, mais en passant par le Maine. Et c'est au Maine qu'il y a surtout des débats sur la construction de cette ligne-là. Et ensuite, il y aurait, dans l'État de New York, le Champlain-Hudson Power Express, qui est une ligne qui relierait le Québec à la ville de New York pour alimenter celle-ci avec, en électricité. Et donc, c'est une opposition qui est très locale et souvent très éclectique. Vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est composé à la fois de groupes d'intérêts et de regroupements citoyens. Donc, dans les groupes d'intérêts, c'est une drôle d'alliance, si vous voulez, entre des groupes environnementaux, des groupes de la protection environnementaux et des conglomérats énergétiques, notamment gaziers, pétroliers et de charbon. Et il y a aussi, bien entendu, là-dedans, des groupes représentant les intérêts des Premières Nations qui s'opposent à la construction de ces projets-là, ou du moins sur des bases de la destruction environnementale qui en découle. Et aussi, vous avez des regroupements citoyens, où est-ce que là, c'est à la fois des associations de pêcheurs qui veulent qu'on protège leurs ruisseaux, leurs étangs, leurs lacs, des groupes de plein air, et aussi beaucoup d'associations de petits propriétaires, des associations de propriétaires terriens qui veulent conserver dans une moindre mesure, ils ne veulent pas que le paysage de leur propriété soit amoindri par la construction de pylônes électriques. Et leurs arguments sont vraiment orientés sur, si vous voulez, les deux lignes d'attaque, c'est-à-dire que vous avez d'un bord, il y a deux axes, donc c'est l'axe environnemental puis l'axe économique. Donc, sur le plan environnemental, ce que les opposants vont contester, dans le fond, le fait que l'hydroélectricité devrait être considérée comme une énergie verte. Notamment sur la question, ce qu'on vous dit, c'est qu'en raison de la destruction d'écosystèmes marins et forestiers qu'engendre la construction des barrages hydroélectriques, mais aussi la destruction du paysage qu'engendre les constructions de ces lignes-là, il y a à se demander si c'est réellement une énergie qui nous aide à atteindre nos objectifs d'émissions de gaz à effet de serre, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, notamment parce que il y a une quantité phénoménale de méthane qui est relâchée dans l'atmosphère en raison de cette destruction-là. D'autre part, sur les questions économiques, c'est là qu'il y a vraiment l'alliance entre les groupes environnementalistes, une alliance, si vous voulez, involontaire, mais du moins de fortune, entre les groupes environnementalistes et les conglomérats énergétiques. Parce que ce qu'on vous dit, c'est que s'il y a un afflux d'énergie hydroélectrique sur le territoire du Nord-Est en provenance du Québec, cela risque d'avoir des impacts très négatifs sur le marché de l'énergie dans ces États-là, notamment sur les producteurs d'énergie verte et renouvelable comme l'éolien, le solaire, mais aussi, bien entendu, les producteurs d'énergie gazier, pétrolier. Et donc, on parle ici de perte d'emploi et de perte d'investissement. Et l'autre argument qui commence aussi à faire son bout de chemin, si vous voulez, c'est la question notamment, on parle de sécurité énergétique, c'est-à-dire que c'est un peu un argument protectionniste qui se met en place, mais ce qu'on va nous dire, c'est que est-ce que c'est une bonne idée de dépendre de nations étrangères pour s'approvisionner en électricité, ou du moins assurer notre approvisionnement en énergie. Et à ce niveau-là, beaucoup de groupes d'associations de producteurs d'énergie soulèvent cette question-là de plus en plus, ce qui, au fond, nous informe un peu sur une relation, du moins, il existerait, et cet enjeu-là le présente quand même assez bien. Il existe quand même une certaine méfiance aux États-Unis, et du moins au niveau local, envers le Canada, envers le Québec.
Évidemment, ces groupes-là sont actifs, ils se font entendre. Par contre, ce n'est pas nécessairement une opinion qui est tout à fait répandue à l'échelle, de la population du Maine, mais on a clairement vu certains de ces acteurs très actifs sur la question. Par contre, ils ont perdu une bataille importante. Il devait y avoir une question référendaire sur les bulletins de vote le 3 novembre au Maine, sur cette question spécifique du projet de ligne à haute tension du projet NYSEC, mais la Cour suprême de l'État a invalidé cette demande-là en disant que ça ne respectait pas la Constitution de l'État. Donc ça va être un enjeu intéressant à surveiller. Et il y a peut-être de bonnes nouvelles aussi pour ceux qui croient à ces projets-là, dans la mesure où, dans un contexte de pandémie, on va vouloir relancer l'économie de plusieurs États, et notamment l'économie du Maine, qui dépend beaucoup du tourisme. Notamment, il y a eu des pertes importantes l'été passé en raison de la pandémie. Bien, peut-être qu'il y aura un plus grand appétit pour des projets comme ceux-là, parce que la construction de ces lignes à haute tension implique, pendant la phase de construction, des demandes pour des travailleurs qui vont mener à bien ces projets-là. Donc, c'est un débat intéressant à surveiller. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a des groupes assez actifs sur cette question-là, les groupes que Victor décrit un petit peu dans son texte. Donc, Andréanne Bissonnette, Julie-Pierre Nadeau, Alexis Rapin, Véronique Pronovo, Daphné Saint-Louis-Ventura, Frédéric Véraud, David Dubé, Victor Bardot-Bourgeois. Merci pour ce tour de table. Donc, vous avez eu aujourd'hui un avant-goût de ce qu'on retrouve dans ce guide. Il y a des cartes électorales qui insistent sur les élections à surveiller au Sénat. Il y a des cartes qui vous permettent de connaître les états-clés de l'élection. Il y a une liste de liens à consulter si vous voulez aller plus loin. Et des textes de 1200 mots à peu près sur chacun des thèmes dont on a parlé aujourd'hui. Donc, 14 auteurs-autrices, beaucoup de matériel, mais je dirais que c'est un guide à garder sous la main jusqu'au 3 novembre et on souhaite qu'il sera utile, qu'il vous aidera à mieux comprendre ce système électoral qui est un petit peu déroutant parfois, pas toujours simple à comprendre. Je vous remercie d'avoir écouté ce balado de la chaire. Si vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez le faire sur les médias sociaux de la chaire Raoul Dandurand, sur Facebook, Twitter et Instagram, en utilisant le mot-clic « balado de la chaire ». Je vous invite également à consulter notre site Internet si vous voulez rester à l'affût de nos activités au www.dandurand.ucam.ca. Et sur ce site Internet, vous pourrez aussi vous abonner à notre lettre d'info de la chaire. Et c'est pas une mauvaise idée de rester à l'affût de nos activités ces jours-ci. Le prochain rendez-vous de notre série d'activités sur les élections américaines de 2020 est prévu le 22 octobre à partir de 20h. C'est une activité de visionnement, de clavardage en direct et d'échange avec nos chercheurs autour du dernier débat présidentiel entre Trump et Biden. C'est un rendez-vous. Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur notre site Internet. Ah, puis une toute dernière chose, si vous aimez le balado de la chaire, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur votre plateforme préférée. Évidemment, un 5 étoiles serait grandement apprécié. Ce balado a été monté et co-réalisé par Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin. Allez, à la semaine prochaine!